Bonjour chers auditeurs de Magnificat, bienvenue à Magnificat, donc notre émission du groupe Marie de Nazareth. Nous avons la joie, comme chaque dimanche, d'écouter Justina qui cette semaine nous surprendra en nous disant que le Christ est venu pour nous tous, mais tout le monde ne peut être pleinement chrétien. Bonjour Justina.
Bonjour.
Alors on verra tout ça pourquoi. Patrick Sbalchero, merci beaucoup. Nous allons bientôt vous donner les clés du studio. Fidèle invité de l'émission, c'est toujours une joie de vous recevoir.
Bonjour.
Nous poursuivrons notre promenade au Mont-Saint-Michel. Alors, Justina, qu'est-ce que vous avez à nous raconter?
Eh bien, je vais lire le texte lu aujourd'hui dans le rite catholique romain tridentin. Donc, ça va être la parabole du semeur. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se ressemblait et que toutes les villes ont s'acheminé vers lui, il dit une parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Elle a été foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc, et après avoir poussé, elle s'est desséchée, faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé, produit du fruit au centuple, et... Se disant, il s'écriait « Entende qui a des oreilles pour entendre ». Ses disciples lui demandaient ce qu'il pouvait bien signifier cette parabole. Il dit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Voici donc ce qui signifie cette parabole, la semence, c'est la parabole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. » Puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui ont accueilli la parole avec joie quand ils l'ont entendue. Mais ceux-là n'ont pas de racine, ils ne croient pas que pour un moment, et au moment de l'épreuve ils font défection. Ceux qui sont tombés dans les épines sont ceux qui ont entendu. Mais en cours de route des soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Bonjour, chers auditeurs. Premièrement, France, est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi ce semeur se comporte de manière aussi étrange à semer les graines là où, a priori, elles n'ont aucune chance de pousser?
Alors, pas du tout, je me suis jamais posé la question.
Moi, je me suis posé la question et j'ai découvert une réponse très simple et terre à terre à cela. Dans les terres arides et montagneuses du Moyen-Orient, le semeur n'est pas un monsieur qui, comme dans les dessins chez nous européens ou dans les films, se promène sur la plaine de terre travaillée et jette les graines à droite et à gauche avec ses mains. En réalité, le semeur de cette région se déplace avec un âne qui porte un sac de graines légèrement troué. Le semeur guide l'âne derrière lui, les graines tombent à terre petit à petit, mais puisque la région est, comment dire, loin d'être plate, il passe dans le pain de terre travaillée et se rend vers un autre, tout en traversant les montagnes et les chemins pleins de ronces. Ici, je devais faire une exégèse plus profonde de ce texte, même si je ne sais point s'il y a besoin, car c'est le Christ lui-même qui l'a déjà fait. J'y vois un parallèle avec beaucoup d'autres citations bibliques, mais la première qui me vient en tête, c'est « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Mais il y en a tant d'autres. J'aimerais soulever cette antinomie interne profonde qui est au fond de notre foi. D'une part, le Christ est venu pour sauver tout le monde, sans distinction de nation, de sexe, d'âge, des conditions sociales. Amen. Nous ne sommes pas des calvinistes et nous rejetons l'idée de la prédestination en affirmant le libre arbitre comme entrée divine dans la nature humaine. Cependant, d'autre part, plusieurs paraboles dites par le Christ lui-même soulignent que, même s'il est venu pour nous tous, tout le monde ne va pas y arriver à recevoir ce don de foi. Non par prédestination quelconque, non en fonction de leur âge, leur sexe, leur ethnie ou leur statut social, mais le Christ est venu pour tous, mais tout le monde ne peut pas être chrétien. Ou bien plutôt, tout le monde ne peut pas être pleinement chrétien. Après tout, Nietzsche disait « Il n'y avait qu'un seul vrai chrétien sur terre et encore il était crucifié ». Le message chrétien ne peut et ne doit pas non plus servir de fondement à une idéologie de masse, aux intérêts des partis politiques ou aux intérêts de gouvernement, par exemple. Et notre histoire le démontre tout aussi bien. L'Église apostolique était à son sommet quand elle n'épousait que le Christ et non les intérêts des princes ou des partis politiques. La chrétienté a réussi sa mission par le sang des martyrs, les paroles des saints, et non par le fait d'imposer son mode de vie aux autres. Je le dis aujourd'hui car, certes, chaque chrétien a pleinement le droit d'avoir des opinions politiques, éthiques, bioéthiques, ce que vous voulez, et peut et doit, pourquoi pas, participer à la vie de son pays, mais il ne doit pas et il ne peut pas permettre aux idéologies quelconques de se servir de notre foi, et je dis bien notre foi parce que c'est la nôtre, et en s'indiquant le Christ. Après tout, à chaque fois que nous avons permis aux opportunistes de se servir de notre foi, ça s'est toujours mal terminé. Nous devons bien sûr répandre l'évangile autour de nous, mais nous ne pouvons pas forcer les personnes à entrer dans le royaume des cieux en leur mettant un pistolet sur la tempe. Être chrétien, c'est bien sûr intégrer le corps du Christ, l'Église, mais avant cela, il faut passer par une démarche individuelle profonde en passant par la solitude et en éprouvant la non-évidence de la foi. Je terminerai en citant la lettre à Dionette qui peut nous aider à trouver cet équilibre dans cette antinomie dont nous manquons parfois. Les chrétiens ne se distinguent pas d'autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils habitent pas des villes qui leur soient propres, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie.
Merci Justina. Écoutons à présent ce chant des paras, voilà, qui chaque fois me prend aux tripes. Saint-Michel.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors nous voilà donc de nouveau au Mont-Saint-Michel, comme il y a 15 jours, Patrick Sbalquiro. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur différents domaines, non pas uniquement religieux du reste, car vous avez écrit sur les fantômes.
Et sur Antonio Gaudí, l'architecte voilà. de Barcelone, la Sagrada Familia, voilà.
Alors, j'espère que vous viendrez nous parler des exorcismes aussi à l'occasion, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, voilà, ça gronde au Mont-Saint-Michel, il y a eu des combats. Est-ce que, vous pouvez, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que finalement, ce n'était pas un îlot où la paix régnait, perdue.
Non, au Mont-Saint-Michel, nous ne sommes pas dans la Jérusalem d'en haut encore.
Ouais.
Il y a bien sûr tout un contexte humain, militaire, politique qui est inséparable de l'histoire, bien sûr de la communauté des moines et du Mont-Saint-Michel, qui comprend aussi, il faut le rappeler, un petit village tout de même.
Oui.
Hein, les Montois, bien sûr, qui comptent quelques dizaines d'habitants, mais qui ont eu
les
leur
familiers.
Fonction. Oui, voilà, c'est ça, voilà, hein, voilà. Qui ont eu leur fonction au pied de l'abbaye. Oui. Donc, voilà. Alors, les batailles, les différents bouleversements politiques et militaires qui se sont succédés, eh bien, on peut les éclairer peut-être d'une manière rapide, mais néanmoins réelle, de la façon suivante.
Oui.
De par son emplacement géographique, le mont est situé à la jonction entre la Bretagne et la Normandie. Or, le duché de Normandie, et a fortiori le duché de Bretagne, ne sont pas français.
Oui.
Au Xe siècle quand s'installe cette grande communauté monastique. Et il faut attendre eh bien, l'année 903 pour que la Normandie tombe, du moins soit agrégée à la couronne de France, ce qui entraîne déjà un grand bouleversement. Grand bouleversement avec en parallèle la question des Normands et des Vikings. Les abbayes normandes, et notamment parmi les plus grands, le Jumièges, ont été détruits par ces raids vikings. Donc là, on a un aperçu, si j'ose dire, à la fin du Xe siècle, eh bien, tout à fait caractéristique hein, de la participation du Mont aux affaires de ce monde.
Oui.
Je crois qu'il ne faut pas l'isoler, il ne faut pas en faire une espèce de désert. C'était pourtant la volonté. Non, il y a partie intégrante là dans la réalité. Et puis, début du XIIIe, au début du XIIIe, eh bien, la Normandie, cette fois-ci, eh bien, est l'objet de différentes raids et différentes batailles. Hein. Il y a des oppositions entre le roi de France, le duc de Normandie, les ducs de Normandie, les uns soutenant la communauté, les autres étant en rivalité avec les abbés. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ainsi. Et puis, début du XVIe siècle, en 1532, cette fois-ci, c'est la Bretagne qui échoue bien sûr à la couronne de France, hein, qui est intégrée à la couronne de France, là aussi provoquant un certain nombre de difficultés. 1532, c'est l'époque également où nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, les abbés du Mont-Saint-Michel ne sont plus élus démocratiquement par
leurs
moines.
Oui, j'ai vu que c'était des laïcs.
Mais voilà. Et puis fin 16e également. Fin 16e, les choses se succèdent, ce sont les guerres de religion.
C'est ça, les
huguenots. Et là, les guerres de
religion,
vous avez des troupes protestantes qui, à trois ou quatre reprises, tentent de s'introduire à l'intérieur du monastère, qui parviennent, alors en utilisant des stratagèmes assez rocambolesques, parfois en étant même déguisés, enfin,
ah oui,
avec tout un système d'escalade assez incroyable.
Alors j'ai lu dans votre livre qu'ils ont même habillé un huguenot.
Oui, en moine.
En moine,
ah
qu'ils
oui,
l'ont jeté de la falaise.
Voilà.
Pour faire croire et que c'était un moine.
Voilà, tout à
fait.
Mais
ils se sont rendus compte que c'était un des leurs.
Exactement, exactement. Il y aurait, je pense, pas mal à dire hein, sur. Bon, globalement, le monastère n'est pas, la communauté n'est pas passée au protestantisme.
Hein. Oui.
Il y a une persistance quand même dans le catholicisme. Et il y a ensuite, alors là aussi c'est tout à fait important, les réformes du début du XVIIe siècle. Vous voyez, chaque siècle a son. Voilà. Il y a un renouveau
oui.
des conditions monastiques au XVIIe siècle, mais ce renouveau n'empêche tout de même pas, eh bien, le mont est en quelque sorte tributaire des pouvoirs publics de l'époque. À la fois par les réseaux monastiques, à la oui. fois pour des questions économiques et matérielles, hein, le pèlerinage perdure, mais le mont devient de moins en moins isolé, il devient, on peut le dire avant la lettre, une sorte de monument national, hein,
oui.
objet de mémoire collective. Arrive le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, où toute la spiritualité tourne un peu au ralenti, c'est le moins qu'on puisse dire, et la Révolution française qui, bien sûr, ferme hein, les communautés religieuses, disperse les biens de ces communautés, et c'est l'époque, au tout début du XIXe, dans les années 1800, eh bien, où les fameux livres
dont on parlait il y a 15 jours,
sont dispatchés à droite et à gauche. Et le XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle de l'horreur pour le Mont, puisque le Mont, à partir de 1793-94, est transformé en prison.
Le Mont Libre.
Le Mont
Alors,
Libre.
C'est quand même curieux d'appeler une prison le Mont Libre.
Hein, c'est paradoxal. Et c'est une prison au début qui touche, où l'on emprisonne eh bien, les opposants, quelques vieux moines, opposés notamment à la constitution civile du clergé, la signature de la constitution civile du clergé, quelques réfractaires à la Révolution. Et puis par contre, dans la première moitié du XIXe siècle, on va y enfermer des opposants politiques.
Hein,
Barbès, Auguste Blanqui, etc. Dans des conditions, il faut le dire, assez effroyables. Hein. Il y a des ateliers qui se mettent en place où on essaie de faire travailler ces prisonniers, mais les conditions sont insalubres.
Oui.
Il y a des taux d'humidité, on peut s'en douter absolument. Oui. L'entretien des bâtiments n'est absolument pas assuré. On y meurt. L'espérance de vie est très 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 abrégée. Hein. Arrive là-dessus, eh bien, le Second Empire. Le Second Empire. Et là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En 1863, l'empereur Napoléon III entend sortir de l'ombre, en quelque sorte, le Mont-Saint-Michel et sa communauté. Et il fait progressivement appel eh bien, à un tas de bonnes volontés, mais de spécialistes également, pour entreprendre une rénovation, parce qu'il y a besoin d'une rénovation complète. La prison est fermée, et à la fin du Second Empire, dans les années 1865-1870, et puis au début de la Troisième République, 1871-1880, vont se mettre en place plusieurs campagnes successives de rénovation, alors cette fois-ci d'ampleur nationale, hein, vraiment d'ampleur nationale. Et on peut dire qu'en 1896, au moment où la flèche est installée sur le toit hein, de la merveille de l'abbaye, l'ensemble architectural, le site a retrouvé globalement, bien sûr, sa splendeur passée.
Est-ce qu'il a retrouvé son nom ? Le Mont Saint-Michel.
Le Mont Saint-Michel,
il s'appelle encore le Mont Libre.
Oui, non, le Mont Libre est passé aux oubliettes. Hein, tout même. Le Mont Libre est passé aux oubliettes avec la fermeture des geôles, qui était épouvantable. Alors en plus, il y a des légendes qui couraient, comme quoi certaines personnes avaient été prisonniers, avaient été retenues dans des cages de fer, enfin bon, des choses assez
des
épouvantables.
Légendes.
Oui, vraiment des choses épouvantables. Il y a déjà des signes... Il existait une petite prison qui était dans les mains des abbés, au XVIIIe siècle. Pardon. Et dans les années 1770, je crois que c'est 1773, le futur Charles X, frère de Louis XVI, visite le Mont et il a une réaction, on peut dire un peu avant-gardiste, entre guillemets. Lui, il voudrait tout éliminer, tout fermer et que le Mont n'ait plus du tout là une seule cellule d'emprisonnement. Bon, il ne va pas, pour le moins, être entendu puisque dans les décennies suivantes, au contraire, ça devient une prison, entre guillemets politique.
Très bien. On disait tout à l'heure, on l'a juste évoqué, hein, que les charges abbatiales avaient été confiées à l'entourage de François Ier à des laïcs.
Alors,
moi, je suis un peu perfide, hein, je me dis, c'est parce que les laïcs ont commencé à s'accrocher dans la vie de l'Église, parce qu'il y a eu un déclin à ce moment-là.
Alors, il faudrait remonter un peu en amont. Si vous voulez, c'est l'une des conséquences des tensions, des rivalités qu'on puisse produire entre le roi de France, certains rois de France, notamment au XVe siècle, et la papauté.
Oui.
En 1516... François Ier signe avec le pape le fameux concordat de Bologne, qui est, comme son nom l'indique, un concordat qui stipule que désormais, le roi de France, en sa qualité, nommera évêque, archevêque, évêques et abbés des communautés. Le pape, se gardant un droit de surveillance, du moins d'appréciation, mais dans les faits, en fait, il n'a pas le droit de dire grand-chose. C'est simplement ce qu'on pourrait appeler une investiture spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que désormais, les évêques et ses abbés, donc l'abbé du monastère, sont nommés par le pouvoir central, par le pouvoir royal. Et que fait le pouvoir royal? Eh bien, il nomme, évidemment, des hommes qui sont proches de lui, ou du moins en accord complet sur la politique bien amenée. Sûr. Il faut rajouter aussi immédiatement, ça c'est une catégorie bien sûr que nous ne connaissons plus, que une charge d'abbé dans un grand monastère sous l'Ancien Régime rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent. Et donc, vous avez comme cela, au XVIe siècle, eh bien, non seulement des laïcs, mais des enfants qui sont nommés abbés commendataires.
Alors justement, un enfant de 16 mois.
Voilà.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, c'est un parent du duc de Joyeuse.
Oui. Hein,
et ce sont des
Henri de Lorraine.
Henri de Lorraine, ce sont la famille des Guise.
Oui.
C'est la plus haute aristocratie française. Hein. Et donc, on se partage les bénéfices des abbayes. Et vous avez comme cela, en France, des abbés commendataires, eh bien, qui peuvent cumuler. Là, c'est un cumul des mandats presque, hein, ouais. Qui peuvent cumuler 5, 6 abbayes.
Et alors là, il y a un bébé de 16 mois.
Voilà.
Qui avait été.
Voilà,
ça n'a pas duré bien longtemps. Alors
non.
Pierre de Bérulle arrive là-dessus.
Voilà, Pierre de Bérulle arrive. Il n'est pas le seul, Pierre de Bérulle, mais le cardinal de Bérulle, que l'on connaît évidemment pour sa théologie, grande théologie, il fait partie bien sûr de l'école française de spiritualité. Eh bien, Pierre de Bérulle introduit. Une réforme monastique au Mont, réforme monastique qui est celle à l'époque de la congrégation de Saint-Maur, qui est la grande congrégation savante et très spirituellement très, très, très élevée.
Alors j'ai noté 12 moines, ils étaient 12 eux
aussi. Voilà. Ils ont presque tout recommencé. Ouais. Parce qu'il faut bien s'imaginer que les abbés, les fameux abbés commendataires dont nous parlions, la plupart d'abord ne séjournent pas, même pas à l'abbaye. Ils ne quittent pas la cour du roi, ou ils ne quittent pas certains pour, s'ils sont évêques, etc., leur diocèse. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'abbaye. Ils se fichent et contrefichent de tous les aléas de la vie quotidienne de leur communauté. Évidemment, grossièrement, ils empochent les fameux bénéfices sans même se soucier de l'entretien des bâtiments, voyez-vous, et du bien-être des moines. Alors, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier, si l'on peut dire, mais la tendance générale est celle-ci.
Et ça, c'était une grande découverte à la lecture de votre livre.
Oui. Et ça touche vraiment toutes les communautés françaises de ce temps-là. Et c'est un petit miracle, ou même un miracle tout court, qu'au XVIIIe siècle, un certain nombre de grandes abbayes aient pu refaire surface. Notamment dans la congrégation de Saint-Maur, pas seulement, mais notamment dans la congrégation de Saint-Maur. C'est vraiment, vraiment quelque chose avec l'aval, cette fois-ci, du cardinal de Richelieu et de Louis XIII, notamment. Mais là, au XVIe siècle, le Mont-Saint-Michel a eu très, très, très chaud. Or, je passe sur les détails un peu pittoresques de moines partant à la chasse, introduisant dans le monastère tout un tas de populations, dont pas besoin d'évoquer les tenants et les aboutissants, voilà.
Ouais. Mais Saint-Michel veillait.
Et Saint-Michel veillait, voilà.
Alors, donc, il y a eu un renouveau spirituel au Mont-Saint-Michel, cet essor perdure.
Oui.
Les fraternités monastiques de Jérusalem sont restées assez longtemps.
Au début des années 2000, bien sûr.
Et puis maintenant, la communauté Saint-Martin.
Fondée par le père Delfieux.
Oui.
Et maintenant, donc, la communauté Saint-Martin.
Alors, qui, j'ai vu, ne se contente pas de rester au Mont-Saint-Michel, mais ils ont vraiment une vie, de secteur paroissial,
c'est-à-dire
que
apostolique.
Merci beaucoup. Ils vont au-delà du Mont-Saint-Michel.
C'est ça.
Et après ces fraternités monastiques de Jérusalem qui sont restées longtemps, qui ont marqué quand même.
Ils sont restés longtemps. Ah oui, qui ont marqué le lieu. C'est une famille religieuse très impressionnante, notamment de par leur. Ils sont serviteurs d'une liturgie inspirée de l'Orient, magnifique.
Oui.
Hein, La paroisse Saint-Gervais à Paris, bien sûr, hein, ils sont là. Et ils ont bien sûr su animer, développer, porter vraiment dans la prière, dans l'accueil même des gens, et bien pendant des années, les innombrables pèlerins du Mont. Oui. Complètement. Oui.
Bon, espérons que la communauté Saint-Martin restera 1000 ans, comme les bénédictins. Oui. Alors, ils ont réaménagé le Mont Saint-Michel parce qu'il y a énormément de monde. Il faut quand même préserver la baie.
Oui, bien sûr.
Il vaut mieux s'y rendre en saison creuse. C'est tout à fait faisable.
Y a-t-il encore une saison creuse? Il faudrait, pour bien faire, mais je sais que pour beaucoup, c'est très difficile, voire un peu, éviter les mois de juillet
bien
et
sûr.
Août.
Oui.
Juillet en août, vous n'avez plus aucun confort de vie.
Bien sûr.
Il faut dire, comme dans de nombreux sites touristiques.
C'est pas possible.
Mais bien sûr. Ouais. Je vais citer juste une petite anecdote.
Oui.
Il y a de cela quelques années, les bénédictins étaient encore là, pour vous dire. Hein. J'ai vu un monsieur qui n'est planté devant les portes de l'église, de l'église abbatiale. La messe, une fois terminée, les portes sont bien sûr ouvertes. Il était planté là. Il a dit tout fort, « Ah, enfin, on va pouvoir visiter. »
Ah oui.
Vous voyez. Ouais. Donc, là, les flots de pèlerins, c'est...
Oui. Bon, merci beaucoup, Patrick.
C'est moi.
Nous reviendrons prochainement ensemble parler donc d'autres sujets. Et puis, je vous invite quand même tous à aller au Mont-Saint-Michel parce que ça vaut le coup. Merci, bonne semaine. Au revoir, Justine. Au revoir, Patrick.
Au revoir.